Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de notre programme. Dans l'actualité de l'Église, nous vous rendrons compte des différentes audiences du Saint-Père avant de nous enquérir des nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est au Zimbabwe, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Quant à l'actualité sociopolitique sur le continent africain, elle nous conduira entre autres en Côte d'Ivoire, au Rwanda et en Zambie. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France-Afrique, Donatien Niembo.
Le pape a reçu vendredi en audience privée Madame Salomé Zourabikvili, présidente de la Géorgie, qui a ensuite rencontré Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Au cours des entretiens cordiaux, la satisfaction a été exprimée pour les bonnes relations entre le Saint-Siège et la Géorgie, avec une référence particulière à la collaboration mutuelle dans les domaines culturels, scientifiques et éducatifs et à la contribution de l'Église catholique dans le pays. Ils ont ensuite abordé les questions régionales et internationales en accordant une attention particulière aux questions humanitaires et en soulignant l'importance de promouvoir la justice et l'harmonie sociale. Parmi les hôtes du Saint-Père vendredi, il y avait aussi le cardinal Antonio Maria Rucco Varela, archevêque émérite de Madrid, suivi de Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en France, et Monseigneur Vittorio Francesco Viola, archevêque émérite de Tortona en Italie et secrétaire de la Congrégation pour les cultes divins et la discipline des sacrements. Alors que la campagne de vaccination se poursuit intensément dans les pays les plus riches, l'urgence sanitaire reste forte dans de nombreuses régions pauvres du monde. L'aumônerie apostolique a acquis un lot de respirateurs ainsi que d'autres fournitures qui ont été expédiées dans quelques pays, notamment l'Inde, le Brésil, la Colombie et l'Afrique du Sud. Lors de sa première visite dans le diocèse de Rumbek, dont l'évêque nommé a été blessé par balle en avril, Monseigneur Mathieu Remigio Adam, l'administrateur apostolique de ce diocèse sud-soudanais, a appelé à la réflexion et à la recherche d'un renouveau spirituel. C'est un moment de réflexion pour penser à la réconciliation et au pardon parce que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Ce n'est pas un moment d'abandon de l'Église, mais un moment où nous venons à l'Église parce qu'elle renforce notre foi, a déclaré Monseigneur Remigio. Réfléchissant à l'ambiance qui régnait dans le diocèse de Rumbek après la fusillade de l'évêque nommé, l'ordinaire du lieu du diocèse de Wau a déclaré « Mon message aux fidèles est que ce moment est un moment où nous prions plus que jamais, car nous devons nous rapprocher de Dieu. C'est un moment où nous réfléchissons et nous nous retournons vers Dieu », a déclaré l'évêque en ajoutant que chaque fois que notre foi est mise à l'épreuve, elle devient plus forte. Les Zimbabwéens ont rendu hommage au père Emmanuel Ribeiro, le prêtre ayant dirigé le comité qui a composé l'hymne national du pays et participé à la conception du drapeau de la nation zimbabwéenne. Le père Ribeiro est décédé jeudi 16 juin à l'âge de 86 ans, avait annoncé l'archidiocèse de Harare, précisant que le décès est survenu à l'hôpital Sainte-Anne à Harare, où il était admis depuis quelques jours. Le nom du défunt prêtre restera dans l'histoire comme l'un de ceux qui ont joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe et dans la liturgie de l'Église, ont déclaré plusieurs citoyens du pays dans leur éloge. Acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale CPI, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est depuis jeudi 17 juin de retour en Côte d'Ivoire dans son pays après 10 ans passés en détention à La Haye suite aux événements de la crise post-électorale de 2010-2011 qui ont fait plus de 3000 morts. Évoquant l'enjeu de ce retour, Monseigneur Ignace Bessidogbo, archevêque de Korogo et président de la conférence épiscopale ivoirienne, indique qu'il constitue un des moyens pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.
Quand deux membres d'une famille se sont éloignés, le retour c'est la réconciliation. L'enjeu c'est la réconciliation. On se retrouve. Parce qu'on s'est séparé. Dans toute vie humaine, dans toute vie en société, même au cœur de l'homme, il y a des ruptures. À plus forte raison, dans la vie en famille, dans la vie en société, dans la vie d'une nation, il y a des ruptures. Mais à un moment donné, il faut que la nation, la société, la famille, l'individu même puisse se retrouver. L'enjeu, c'est la réconciliation. Il faut se retrouver, il faut vivre ensemble. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas perpétuer une situation de rupture, de conflit, mais il faut, à un moment donné, arrêter les situations de conflit. On ne peut pas se réconcilier sans se retrouver. Tout est question de la détermination des uns et des autres, de l'intention, de la finalité qu'on veut. Quelle est l'intention que nous avons, nous les Ivoiriens? Est-ce que nous voulons nous réconcilier? Si nous voulons nous réconcilier, nous en prenons les moyens. Et ce retour est l'un des moyens pour la réconciliation. Et nous savons que toute réconciliation n'est pas facile. Quand on est déterminé, on rencontre des obstacles, mais on les surpasse. Les obstacles ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Donc si on est déterminé pour la réconciliation, bien, rien ne pourra arrêter cette réconciliation.
Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque de Korogo et président de la conférence épiscopale ivoirienne, joint au téléphone par Françoise Niamien. Restons en Côte d'Ivoire où le CRAG, centre rural et artisanal de Guibérura, dans l'archidiocèse de Ganoa, a procédé samedi 12 juin 2021 au cours d'une messe à l'ouverture des festivités de ses 55 ans d'existence. Reportage.
Les festivités du 55e anniversaire d'existence du CRAG, le centre rural et artisanal de Guibérura, dans l'archidiocèse de Gagnoa, selon son directeur, le père Éric Michel Kadji, répond à deux objectifs majeurs.
Rendre grâce à Dieu pour tous les biens reçus dans la vie du CRAG. Le CRAG a connu de grandes difficultés dont les cicatrices sont visibles à l'œil nu et sensibles au toucher. En célébrant ces festivités, c'est d'abord pour redonner vie au CRAG, faire du CRAG un pôle d'excellence et de référence.
Créé dans le but d'offrir une chance aux jeunes garçons et filles de la région du Gagnoa, n'ayant pas eu l'opportunité d'emprunter le chemin de l'école, mais aussi ceux éjectés du système éducatif. Aujourd'hui, ce centre connaît plusieurs difficultés. Le père Félicien Guessé, secrétaire exécutif de diocèse d'éducation catholique du Gagnoa, dans son homélie, a lancé un cri de cœur à l'endroit des catholiques, les invitant à sortir de l'indifférence pour donner un nouveau visage au CRAG. Ainsi, pour le premier pan de sa relance, environ 16 millions de francs CFA seront nécessaire. Fortement impliqué, Monseigneur Joseph Akeyapo, l'archevêque des Gagnoa, a exhorté les Ivoiriens à ne pas laisser mourir ce centre qui offre une meilleure insertion aux jeunes par ses formations qualifiantes et diplômantes. Notons que les festivités des 55 ans de vie du CRAG seront marquées par des journées portes ouvertes et un panel. La messe de clôture de ce jubilé d'orchidées est prévue pour le samedi 4 décembre 2021. Marcel Ariston Blé, Gagnoa, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Refermant cette page de l'actualité de l'Église par le Bénin, où administratifs parents d'élèves et élèves du jardin d'enfants, les NEMS des sœurs de Saint-Augustin du Bénin à Cotonou ont clôturé l'année scolaire par une messe d'action de grâce.
En plein air, sous des bâches dressées sur la cour de leur école, la directrice sœur Emine, les tout-petits, le personnel et les membres du bureau de l'association des parents d'élèves du jardin d'enfants, les NEMS des sœurs de Saint-Augustin du Bénin à Cotonou, ont clôturé l'année scolaire le samedi 12 juin 2021. La messe d'action de grâce a été dite par l'aumônier diocésain de l'enfance missionnaire de l'archidiocèse, le père Bertrand Tomenti Kosoupe, entouré de quelques prêtres dont l'abbé Wenceslas Rondayon, directeur diocésain adjoint de l'enseignement catholique. Elle a été suivie de diverses manifestations récréatives à la joie et à l'admiration des parents et invités. L'opportunité a été saisie par le personnel pour honorer le gardien de l'école, M. Norbert Honto Ada, admis à faire valoir ses droits à la retraite, et la directrice de se réjouir.
Rendons grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour.
Et le père Tomatine d'insister à l'homélie sur le rôle de la famille dans l'enracinement de la foi des enfants.
La mission principale est donc d'abord aux parents qui sont appelés à fonder un foyer où la tendresse, le pardon, le respect, la fidélité et le service désintéressé sont de règle.
Il a enfin martelé à l'endroit des enfants.
Je vais vous apprendre ces trois principaux devoirs. Aimer Dieu, honorer ses parents et savoir leur préférer Dieu quand il le faut.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
au lendemain du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, fêté dans la liesse par ses partisans, mais marqué par des tensions. La réconciliation nationale est à l'ordre du jour dans ce pays encore meurtri par deux décennies de violences politiques et ethniques. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique après avoir été acquitté de crimes contre l'humanité par la justice internationale. J'ai des larmes aux yeux en pensant à ma mère décédée, a-t-il ajouté, évoquant ce décès survenu pendant qu'il était emprisonné à La Haye. C'étaient les premiers mots adressés par M. Gbagbo aux membres de la direction de son parti, le Front Populaire Ivoirien FPI, moins de 4 heures après son retour. Il a ajouté qu'il aurait l'occasion de faire plus tard un discours politique. Acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale CPI, l'ex-président Laurent Gbagbo était rentré jeudi en Côte d'Ivoire qu'il avait été forcé de quitter il y a 10 ans, se disant heureux d'être là après avoir été accueilli par des milliers de partisans en liesse. Des sources judiciaires ont indiqué vendredi que la prison à vie a été requise jeudi contre Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, jugé depuis mi-février pour terrorisme à Kigali, dans un procès qualifié de politique par la défense de cet opposant au président Paul Kagame. Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par ce film sorti en 2004 qui raconte comment l'ancien directeur de l'hôtel de Mille Collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide en 1994 qui a tué 800 000 Rwandais. La présidence sud-africaine a décrété vendredi 10 jours de deuil national en mémoire du premier président zambien Kenneth Kaunda, décédé la veille à l'âge de 97 ans d'une pneumonie à Lusaka. La Zambie sous Kaunda était l'un des pays les plus opposés au gouvernement de l'apartheid et a accueilli pendant des décennies le Congrès national africain ANC en exil sur son sol depuis les années 1970. Kaunda a été le premier dirigeant étranger à recevoir la visite de l'icône de la libération sud-africaine Nelson Mandela à sa sortie de prison en 1990. Dans un autre registre, l'Afrique du Sud va déployer du personnel militaire médical dans la province de Gauteng, fortement touchée par l'épidémie de COVID-19, pour aider les professionnels de santé à faire face à une recrudescence des cas, a annoncé vendredi la ministre de la Santé. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a renforcé mardi les mesures de lutte contre le coronavirus, prolongeant le couvre-feu du Nord et imposant un contrôle plus strict de la vente d'alcool face à une troisième vague de la pandémie de COVID-19. Officiellement pays du continent le plus touché par le virus, l'Afrique du Sud, durement frappée par une deuxième vague fin 2020, connaît depuis 2 semaines un doublement du nombre de contaminations quotidiennes et une augmentation de près de 60% des hospitalisations. La région du Sahel, où l'opération française Barkhane va céder la place à une coalition internationale, requiert une approche coordonnée combinant humanitaire, développement et sécurité, a indiqué le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Selon le dernier rapport du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR sur les déplacements dans le monde publié vendredi, environ 750 000 personnes ont été nouvellement déplacées au Sahel dans ce qui est peut-être la crise régionale la plus complexe au monde. La dynamique de la crise est donc négative, a déclaré le haut-commissaire Filippo Grandi. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le 10 juin une réduction de la présence militaire française au Sahel, marquée par la fermeture des bases et une réarticulation de la lutte anti-djihadiste autour d'une alliance internationale associée des Européens. L'Éthiopie vote lundi lors d'élections législatives très attendues, alors que le pays est secoué par les violences, notamment dans la région du Tigré, en proie à la guerre et à la famine.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Trois militaires camerounais poursuivis pour le meurtre en 2020 de 13 civils dont 10 enfants lors d'une opération dans un village nord-est anglophone en proie à un sanglant conflit séparatiste ont plaidé jeudi non coupables. Le gouvernement camerounais avait admis en avril 2020 que 13 civils avaient été tués par des militaires épaulés par une milice de l'ethnie Peul dans le quartier de Ngarbou du village de Ntumba dans la région du nord-est. Pour l'ONU, au moins 23 civils, dont 15 enfants et 2 femmes enceintes, avaient été tués. Les frontières terrestres du Niger, fermées depuis mars 2020 pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, ont rouvertes depuis jeudi, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. L'analyse de la tendance épidémiologique de la COVID-19 montre que la situation est toujours sous contrôle, assure le gouvernement. Mais au risque d'être refoulés, les passagers arrivant au Niger devront présenter un bulletin des tests négatifs au COVID-19, a expliqué un agent du ministère nigérien de la Santé. Au départ du Niger, les voyageurs doivent aussi présenter un bulletin des tests négatifs des moins de 5 jours, a-t-il précisé. Place à Françoise Niamien pour le magazine sur l'actualité internationale de la semaine.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Malgré la pandémie, le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et les exactions a atteint un record de 82,4 millions, un chiffre 2 fois plus élevé qu'il y a 10 ans selon l'ONU. Selon le rapport annuel de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, publié vendredi, le nombre de réfugiés, de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et de demandeurs d'asile a progressé de 4% en 2020 par rapport au chiffre déjà record de 79,5 millions fin 2019. La Lituanie, pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne, a déclaré vendredi qu'elle allait accorder l'asile à une douzaine d'Afghans qui ont travaillé comme traducteurs pour les forces armées internationales et craignant la répression des talibans une fois que les troupes étrangères auront quitté leur pays. La capitale russe a enregistré, selon des statistiques publiées vendredi, 9056 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie, et la Russie, avec 17262 contaminations, est au plus haut depuis le 1er février. Dans un autre registre, les présidents américains Joe Biden et le russe Vladimir Poutine ont vanté mercredi leurs échanges constructifs lors d'un sommet à Genève, affichant leur volonté d'apaiser les tensions tout en restant avares en annonces concrètes. En Espagne, au moins 3 personnes sont mortes, dont une femme, visiblement enceinte selon les sauveteurs, et 5 autres sont portées disparues après le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île de Lanzarote dans l'archipel espagnol des Canaries, ont annoncé vendredi les secours locaux. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé vendredi la fin du port du masque obligatoire en extérieur à partir du 26 juin dans le pays où la situation sanitaire est en très nette amélioration. Quelques 700 manifestants ont défilé sur les routes de l'aéroport de Paris à Roissy vendredi pour demander le retrait d'un plan impliquant des baisses de salaire pour faire face à la crise du coronavirus. Dans un autre registre, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a nié mardi devant le tribunal correctionnel de Paris avoir engagé des dépenses excessives dans sa campagne perdue de 2012 dans le cadre d'un procès débuté il y a 3 semaines. L'aviation israélienne a mené des nouvelles frappes dans la nuit de jeudi à vendredi contre des cibles du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza, selon l'armée et des témoins. À 5 mois d'une conférence climat cruciale, les négociateurs internationaux se sont séparés jeudi sans Percy et Londres, organisateur de la COP26, va tenter de donner un coup de fouet politique aux négociations pour garder en vie les objectifs de l'accord de Paris. Le Royaume-Uni a conclu un accord commercial post-Brexit avec l'Australie qui doit lui offrir les portes de la région Asie-Pacifique, mais avec un bénéfice économique économique incertain et le risque de pénaliser les éleveurs britanniques et de nuire au climat. Les sportifs pourraient subir des sanctions financières ou être expulsés des JO de Tokyo s'ils enfreignent les mesures anti-Covid, notamment les tests quotidiens et le port du masque, ont averti mardi les organisateurs en dévoilant des règles actualisées. Les dirigeants de l'OTAN ont signé lundi leur ligne rouge à Vladimir Poutine avant sa réunion avec Joe Biden et ont décidé de faire front commun face à l'extrémisme de la Chine en Europe lors de leur sommet annuel à Bruxelles. Après 12 ans de règne ininterrompu de Benjamin Netanyahu, Israël vit lundi un nouveau jour avec le premier ministre Naftali Bennett, un ultra-droitier qui va devoir rapidement prendre ses marques à la tête d'une coalition hétéroclite sans direction faire face à de nombreux défis. Le premier procès contre l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'état militaire et inculpée à de multiples reprises par la junte, s'est ouvert lundi, les observateurs dénonçant une procédure spectacle uniquement motivée par des raisons politiques. En Argentine, l'infirmier de nuit de Diego Maradona, premier membre de son équipe médicale, à comparaître lundi devant le parquet argentin, a contesté avoir abandonné son patient à une lente agonie, assurant avoir reçu l'ordre de ne pas le réveiller.
Marie-Josée Muando Boisboileau nous présente maintenant la rubrique consacrée au sport.
Commençons notre rubrique sur le sport par la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN, qui se jouera comme prévu au Cameroun en janvier 2022. C'est ce qu'a assuré le secrétaire général de la Confédération africaine de football, CAF, Véran Mosengo Omba, après des rumeurs sur les réseaux sociaux d'un nouveau retrait du tournoi au pays hôte. Le Cameroun devait accueillir en 2019 la précédente édition de la compétition phare sur le continent africain, mais l'organisation lui avait été retirée en raison du retard dans la construction et dans la réhabilitation des stades. L'Égypte avait finalement organisé la compétition. La CAN se jouera du 9 janvier au 6 février 2022. Initialement prévu en juin, le tirage au sort des poules a été reporté en raison de problèmes logistiques liés à la COVID-19 au mois d'août, mais la date précise reste à déterminer selon Narcisse Mwele-Kombi, ministre camerounais de sport. Alessandro Nesta et Francesco Totti en costume, Andrea Bocelli en grande voix et des feux d'artifice des grands soirs, la cérémonie d'ouverture de l'Euro n'a pas manqué d'étincelles, mais les vrais stars, c'était les supporters de retour dans les gradins. En centre-ville de Rome, autour de l'obélisque de la Piazza del Popolo pendant toute la journée, puis aux abords du Stadio Olimpico avec drapeau et fumigène, et enfin installé façon puzzle dans l'immense enceinte afin de préserver l'indispensable distanciation. Avec des maillots bleus de l'Italie ou ceux rouges de la Turquie, avec surtout le même sourire derrière les masques et la même envie immense de retrouver les stades. Avant le match d'ouverture la semaine dernière, Nesta et Totti, deux ex-stars du football de la Roma et la Lazio, avaient été chargés d'accueillir ces 15 à 16 000 supporters admis dans un stade olympico qui n'avait pas vu des tifosi depuis bien longtemps avant la pandémie de coronavirus qui a reporté l'Euro d'un an. Mais la légende de Giallo Rossi et la figure de la Siali ont été discrets. La cérémonie d'ouverture a été principalement animée par le ténor Andrea Bocelli, qui a mis du cœur pour interpréter Nessun Dorma, tiré de l'opéra Turandot de Puccini. Les fans de football à Cuba sont soulagés. La télévision cubaine a annoncé la semaine dernière qu'elle diffuserait la Copa América, deux semaines après avoir dit qu'elle devait y renoncer faute d'argent pour payer les droits. Le 21 mai, télé rebelle avait expliqué qu'en raison de la situation financière tendue liée au renforcement de l'embargo américain et à la pandémie de coronavirus, elle n'avait pas les fonds nécessaires pour acquérir les droits de diffusion de la Copa América et de l'Euro de football. Les fans avaient alors été nombreux à s'en lamenter sur les réseaux sociaux. Le Rally Raid sera organisé à partir de 2022 sous la forme d'un championnat du monde sous l'égide de la Fédération internationale de l'automobile avec le Dakar comme événement phare, ont annoncé jeudi les promoteurs. Le Conseil mondial du sport automobile a accordé le statut de championnat du monde à la discipline des rallyes cross-country, nommée également Rally Raid ou Rally tout-terrain. Le championnat du monde de rallye raid devient le 7e, chapeauté par la Fédération internationale de l'automobile, rejoignant ceux de Formule 1, de rallye, d'endurance, de rallye cross, de karting et de Formule E ou monoplace électrique. Les États-Unis ont franchi un pas supplémentaire vers une candidature pour organiser la Coupe du monde de rugby après que la Fédération internationale World Rugby ait approuvé l'étude de faisabilité dont faisait l'objet son projet. World Rugby devrait annoncer les pays hôtes des Coupes du monde 2027 et 2031 en mai 2022, ainsi que ceux des Coupes du monde de rugby féminine 2025 et 2029. USA Rugby a déclaré que les États-Unis seraient candidats pour les tournois masculins de 2027 et 2031 et féminins de 2029. L'Australie est néanmoins considérée comme favorite pour organiser le Mondial 2027, la Russie étant le seul autre pays avec les États-Unis à avoir exprimé son intérêt après que l'Argentine ait abandonné son projet.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, ici s'achève cette édition de notre programme qui vous a été présenté par Donatien Nyembo. Merci de nous rester fidèles. Le rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence, même radio.